Bienvenue à l'émission qui déclare la grâce souveraine et éternelle de Dieu en Jésus-Christ. L'évangile glorieux du Seigneur Jésus-Christ et son œuvre accomplie à la croix pour les pécheurs que Dieu le Père a ordonné à ce salut. Puisqu'il nous accordait des oreilles pour entendre les attributs glorieux de Jésus-Christ à travers ce message tiré de sa parole inspirée.
Aujourd'hui, je voudrais vous parler du décret de Dieu. Dieu est un Dieu qui a ordonné toutes choses qui doivent se passer. Donc, le décret de Dieu constitue son dessein éternel, établi selon le conseil de sa volonté. Et par ce dessein, Dieu a, pour sa propre gloire, ordonné d'avance tout ce qui doit arriver. Ce Dieu qui ordonne toutes choses est un point qui est beaucoup contesté aujourd'hui, même parmi ceux qui disent qu'ils croient en Dieu. Ils tiennent la Bible dans leurs mains et ils disent qu'ils croient que cette Bible est inspirée de Dieu. Pourtant, lorsqu'il s'agit de qui a le droit en tant que Dieu de faire ce qu'il veut, où il veut, comment il veut, nous trouvons beaucoup qui se disent enfants de Dieu, qui contestent ce point. Ils préfèrent que l'homme ait le choix en toutes choses. Mais tel n'est pas le Dieu de la Bible. Le nom Dieu lui-même signifie magistrat suprême. Un magistrat suprême est celui qui exerce sa volonté dans la justice en ce qui concerne la loi et le jugement. Et donc, le nom même de Dieu déclare qu'il a le droit, en tant que Dieu, d'ordonner et d'accomplir tout ce qu'il veut. Donc, voilà le sujet de cette étude, le décret de Dieu. Et il y a plusieurs passages de la Bible que je pouvais citer, mais nous allons commencer d'abord par un passage que beaucoup aiment citer en partie. Pourtant, nous devons comprendre ce verset dans son contexte. Et cela se trouve dans Romains chapitre 8, à partir du verset 28. C'est écrit, « Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. » Alors voilà un synonyme du mot « décréter ». Le décret de Dieu, c'est le dessein de Dieu. Beaucoup aiment citer la première partie de ce verset en disant « voilà ». Donc si nous croyons réellement et nous ayons toujours une attitude positive, nous pouvons voir comment toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Et l'accent est souvent mis sur cet aspect. Il faut aimer Dieu d'abord, et alors vous allez comprendre que toute chose concourt au bien. Mais ils ignorent la deuxième partie de ce verset, où c'est écrit de ceux qui sont appelés selon son dessein. Donc, qui sont ceux qui aiment Dieu réellement? Ce sont ceux qui sont appelés selon son dessein. Ça, c'est pas pour tout le monde. Donc, nous ne pouvons pas prendre ce passage en Romains 8 et le verset 28 pour dire que cela s'applique à tous les êtres humains. Parce que ce n'est pas tous les êtres humains qui aiment Dieu. Ceux qui aiment Dieu, c'est que Dieu les a aimés d'abord. C'est ce que l'apôtre Jean a écrit dans son épître, dans 1 Jean chapitre 4 et le verset 10. Donc, qui sont ceux qui aiment Dieu? Ceux qui sont appelés selon son dessein. Comment nous pouvons savoir que nous sommes parmi ce nombre appelés selon ce dessein? C'est que nous aimons Dieu. Dieu nous donne son esprit pour l'aimer tel qu'il se révèle dans les Écritures. Voilà ce qui est important à voir ici. Ce n'est pas aimer notre idée de Dieu. Vous savez, l'idolâtrie, ça provient du mot « idée ». Les gens se font une idée de Dieu, et c'est ce Dieu-là qu'ils aiment. Mais quand ils sont confrontés maintenant avec un Dieu souverain, tel que nous voyons dans la Bible, le Dieu qui, selon son nom, ordonne toutes choses, il est le magistrat suprême, alors c'est là que nous voyons les gens contester. Mais ici, Paul dit, nous savons. Quand il dit nous savons, il s'agit de ceux à qui Dieu s'est révélé et en qui il s'est révélé. Et alors pour eux, ils savent que toutes choses concourent au bien. C'est-à-dire, il n'y a pas de mal qui peut arriver à un enfant de Dieu parce que tout provient de la main de Dieu. Et cela pour la gloire de Dieu. Nous ne pouvons pas dire que toutes choses concourent au bien de ceux qui n'aiment pas Dieu, ou bien ceux qui sont laissés à eux-mêmes, selon la justice de Dieu, et laissés à eux-mêmes, ils ne croient jamais au Dieu de la Bible. Voilà la distinction. Donc tout provient de son dessein. Il y a aussi un passage dans Éphésiens chapitre 3, et le verset 11, où l'apôtre Paul parle de l'Église que Christ a établie par sa vie parfaite et par sa mort efficace, et que cette Église existe, il dit dans le verset 11 de Éphésiens 3, selon le dessein éternel qu'il a mis à exécution par Jésus-Christ notre Seigneur. Donc là encore, nous voyons ce terme qui est synonyme au décret de Dieu. Ce que Dieu a décrété, il a décrété selon son dessein éternel. En cela, nous pouvons voir que toute chose se déroule selon ce que Dieu lui-même a ordonné. Je sais que lorsque les hommes naturels regardent autour d'eux, ils imaginent un monde qui ressemble à bien des égards à un immense chaos livré au hasard, ou encore un gigantesque puzzle dont on ne peut remettre les morceaux en place. Mais nous savons que tout ce qui existe dans le monde existe aujourd'hui exactement comme Dieu lui-même le veut. Et lorsque nous lisons la Bible, cela devient de plus en plus évident que tout ce qui se passe, rien n'existe si ce n'est Dieu lui-même qui l'a ordonné à sa source et qui continue à soutenir toutes choses selon le bon plaisir de sa volonté. Si nous voyons, par exemple, dans Psaume chapitre 2 et le verset 7, nous avons encore un exemple du décret de Dieu, et c'est ici que le mot même est utilisé, dans Psaume chapitre 2. C'est un psaume qui concerne le Seigneur Jésus-Christ, bien avant que le Seigneur Jésus ne soit venu dans le monde. Pourtant, cette question est posée dans Psaume 2, et voilà le chaos qui existe. Pourquoi ce tumulte parmi les nations, ces vaines pensées parmi les peuples? Pourquoi les rois de la terre se soulèvent-ils et les princes se liguent-ils avec eux contre l'Éternel, ça c'est Dieu le Père, et contre son oint? Le oint de Dieu, c'est le Seigneur Jésus. Il est venu comme le oint de Dieu pour être le prophète, pour être le souverain sacrificateur de son peuple et pour être le roi. Mais l'homme a la pensée d'un tel Dieu. Le verset 3 dit, les hommes disent, brisons leurs liens, délivrons-nous de leurs chaînes. C'est comme ça que l'homme regarde un Dieu qui est souverain et qui ordonne toutes choses et qui a décrété toutes choses selon sa volonté. L'homme dans sa rébellion dit non, nous ne voulons pas un tel Dieu. Mais le verset 4 de Psaume 2 dit, celui qui siège dans les cieux rit. Le Seigneur se moque d'eux. Quelle que soit l'opposition de l'homme, l'homme ne peut pas, même par sa plus grande rébellion, contredire ce que Dieu a ordonné. C'est écrit dans le verset 5 de Psaume 2. Puis, il leur parle dans sa colère. Il les épouvante dans sa fureur. Et il dit, c'est moi qui ai oint mon roi. Sur Sion, ma montagne sainte. Et voilà maintenant dans le verset 7. Ce mot que nous sommes en train d'étudier, je publierai le décret. L'Éternel m'a dit, tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. Demande-moi et je te donnerai les nations pour héritage, les extrémités de la terre pour possession. Tu les briseras avec une verge de fer, tu les briseras comme le vase d'un potier. Et maintenant, roi, conduisez-vous avec sagesse, juge de la terre, recevez instruction. Servez l'Éternel avec crainte, et réjouissez-vous avec tremblement. Baisez le Fils, de peur qu'il ne s'irrite, et que vous ne périssiez dans votre voie, car sa colère est prompte à s'enflammer, heureux tous ceux qui se confient en lui. Donc ici, nous avons, bien avant que Christ ne soit venu dans le monde, une prophétie de la manière que Dieu le Père a ordonné à ce que son Fils règne. Nous ne sommes pas en train d'aller ici et là pour essayer de persuader les gens à se soumettre à Christ comme si c'était une campagne électorale, où maintenant Christ veut que les gens se donnent à lui volontiers. Non, c'est écrit dans le verset 6, les paroles de Dieu le Père lui-même, c'est moi qui ai oint mon roi. Déjà, sur Sion, cela représente les élus qu'il a choisis de toute nation, de toute race, représentés par Sion, son église, ma montagne sainte. C'était sur Sion que Christ s'est livré en sacrifice pour les péchés de ce peuple que le Père lui-même lui a donné depuis l'éternité pour sauver. Tout cela fait partie de son décret. Et donc, le dessein éternel de Dieu, qui dit le décret de Dieu, dit la volonté de Dieu. Maintenant, pour comprendre le décret de Dieu, il faut savoir que Dieu a décrété déjà tout ce qui doit arriver. Ce monde existe selon le décret de Dieu. C'est lui le Créateur. C'est lui qui a placé les nations exactement comme il voulait. Et c'est lui qui gouverne le monde qu'il a créé. Son décret comprend son gouvernement. Et cela étend sur toutes ses créatures et tout événement. Il n'y a aucun détail qui est laissé au hasard, comme certaines personnes imaginent. Même les cheveux de notre tête, la Bible dit, sont comptés par Dieu. Le sens de son décret, c'est que l'Éternel a tout ordonné d'avance ou prédéterminé ce qui doit arriver. Rien n'a été laissé au hasard ni échappe à sa parfaite souveraineté. L'Éternel, la Bible dit dans Proverbes chapitre 16 et le verset 4, a tout fait pour un but. Et c'est écrit, même le méchant pour le jour du malheur. Il y a certains qui veulent que Dieu ait le choix en ce qui concerne le salut, mais ils n'arrivent pas à croire que Dieu pouvait décréter ou bien ordonner des pécheurs à l'enfer. Ils imaginent que le choix en ce qui concerne l'enfer reste dans la main des hommes. Mais ici, c'est écrit l'Éternel, dans Proverbe 16 et le verset 4, a tout fait pour un but, même le méchant pour le jour du malheur. Vous ne pouvez pas imaginer quelque chose de pire que la crucifixion du Seigneur Jésus. Mais Pierre, au jour de Pentecôte, en prêchant sur la crucifixion du Seigneur Jésus-Christ, a dit précisément, dans le verset 23, acte 2, 23, cet homme livré selon le dessein arrêté. Voilà encore un autre synonyme de ce mot décret. Le dessein arrêté. Et selon la préscience de Dieu, c'est écrit, vous l'avez crucifié, vous l'avez fait mourir par la main des impies. » Donc ce jour-là, qu'ils ont crucifié le Seigneur Jésus, les hommes impies ont crucifié le Seigneur Jésus, ne voulant pas qu'il règne sur eux, mais tout en faisant cela, c'est écrit, il était livré selon le dessein arrêté et selon la préscience de Dieu. La préscience de Dieu ne signifie pas que Dieu regardait d'avance pour voir ce que les hommes allaient faire. Non, Dieu, dans sa préscience, connaît toutes choses parce que c'est lui qui a ordonné toutes choses. Et notez l'ordre ici dans Actes 2, 23, c'est très important. Mentionné en premier lieu, c'est selon le dessein arrêté et selon la préscience de Dieu. Donc Dieu connaît toutes choses parce qu'il a ordonné toutes choses. Et ce qui est sûr, c'est que rien ne peut empêcher l'accomplissement de ses décrets. Il y a beaucoup de références dans la Bible que je pouvais citer, mais nous allons regarder quelques versets ensemble. Dans Proverbe chapitre 19 et le verset 21, nous voyons ceci cité. C'est écrit, il y a dans le cœur de l'homme beaucoup de projets. Il s'agit ici des choses que l'homme n'a pas encore fait. Il y a beaucoup de projets dans le cœur de l'homme. Mais notez bien, c'est le dessein de l'Éternel qui s'accomplit. Je ne sais pas comment ça pourrait être plus clair que cela, que tout ce qui se passe parmi les hommes, c'est l'accomplissement de ce que Dieu lui-même a ordonné selon son dessein éternel. Encore un passage dans Isaïe, chapitre 14, le verset 24 à 27. Et ce verset, nous voyons partout dans la Bible. Je ne suis simplement en train de citer quelques-uns pour affirmer cette vérité, mais dans Isaïe 14 et le verset 24 à 27, nous lisons « L'Éternel des armées l'a juré en disant, oui, ce que j'ai décidé arrivera, ce que j'ai résolu s'accomplira. » Ici, il s'agit de la destruction d'une nation païenne, les Assyriens. Il dit « Je briserai l'Assyrien dans mon pays. Je le foulerai aux pieds sur mes montagnes. » Notez, il s'agit du pays de Dieu. Les gens parlent de cela comme le pays d'Israël, mais c'est le pays de Dieu. C'est ces montagnes. Et là où les Assyriens ont essayé de complètement détruire cette nation d'Israël, Dieu lui-même les a brisés au pied de ces montagnes, et son joug leur sera ôté, et son fardeau sera ôté de leurs épaules. Voilà la résolution prise contre toute la terre. C'est seulement les hommes qui s'imaginent que selon leur pouvoir, ils gouvernent. Mais ici, nous voyons que c'est Dieu qui gouverne, et c'est Dieu qui accomplit toutes choses, et rien ne peut l'empêcher. Voilà la résolution prise contre toute la terre. Voilà la main étendue sur toutes les nations. Donc il ne s'agit pas seulement de cet aspect de l'histoire qui s'est passé entre les Assyriens et Israël, mais Dieu dit, c'est sa résolution prise contre toute la terre. Et c'est pourquoi il est appelé l'Éternel des armées dans le verset 27, Ésaïe 14. L'Éternel des armées a pris cette résolution. Qui s'opposera? Sa main est étendue. Qui la détournera? Maintenant, en voyant le décret de Dieu, voilà plusieurs aspects où nous voyons l'accomplissement de son décret éternel depuis l'éternité. Tant les choses bonnes que mauvaises, ce que les gens appellent bonnes ou mauvaises. Mais son décret comprend toutes choses. Dans Isaïe chapitre 45 et le verset 7, le Seigneur dit, je forme la lumière et je crée les ténèbres. Je donne la prospérité et je crée l'adversité. Moi, l'Éternel, je fais toutes ces choses. Alors il faut se poser la question, est-ce que ceci est le Dieu que vous adorez et que moi j'adore? Sinon, c'est que nous sommes encore dans l'aveuglement et dans l'incrédulité. Parce que Dieu est Dieu. Sa volonté, sa résolution, son décret éternel englobe absolument tout, tant les choses bonnes que mauvaises, tant les actes pécheurs. Et c'est là que peut-être beaucoup refoulent, ils disent, non, mais comment est-ce que vous pouvez dire que même les actes pécheurs sont selon le décret de Dieu? Nous savons que Dieu a créé Adam au début, il l'a placé dans le jardin, mais il l'a créé faillible. Et selon son décret, nous savons que Adam a chuté. Je sais que beaucoup peuvent se révolter contre cela, mais sachant encore que rien n'existe, que Dieu lui-même l'a ordonné, nous devons comprendre que même la chute d'Adam avait pour but de glorifier le Fils de Dieu qui devait venir dans le monde et sauver de ce monde déchu un grand nombre de pécheurs que, encore selon le décret de Dieu, il a ordonné au salut. Et tout cela pour la gloire de Dieu et la gloire de son Fils. Mais nous savons que les actes pécheurs sont aussi compris dans le décret de Dieu, parce que tel était le témoignage de Joseph à la fin, lorsqu'il s'est révélé à ses frères. Et imaginez ce que les frères de Joseph lui ont fait. Ils l'ont trahi et ils l'ont vendu en esclavage. Ils l'ont haï parce qu'il était le fils préféré de tous ses fils. Et pour cela, ils étaient jaloux. Pourtant, à la fin, nous voyons Joseph en train de dire ici, dans Genèse 50 et le verset 20, « Vous aviez médité de me faire du mal, mais notez bien, Dieu l'a changé en bien pour accomplir ce qui arrive aujourd'hui pour sauver la vie à un peuple nombreux. » Vous ne voyez pas comment cela représente le Seigneur Jésus-Christ qui aussi est venu dans le monde et le monde l'a haï, exactement comme les frères de Joseph l'ont haï. Et ils sont allés jusqu'à le crucifier. Mais même ces actes pécheurs de ces hommes méchants à l'égard de Christ, la Bible dit, étaient selon le dessein éternel de Dieu. Dans Actes chapitre 4, à partir du verset 27, nous lisons ceci, en effet, contre ton saint serviteur Jésus, que tu as oint. Hérode et Ponce Pilate se sont ligués dans cette ville avec les nations et avec les peuples d'Israël. Tout cela, nous avons déjà vu cité dans le psaume 2. Mais notez bien, dans le verset 28, pour faire tout ce que ta main et ton conseil avaient arrêté d'avance. Donc même Hérode et Ponce Pilate, qui étaient des gouverneurs livrés à leur sens réprouvé, et qui se sont ligués dans la ville de Jérusalem, c'est écrit avec les nations et avec les peuples d'Israël, eux tous ils s'opposaient, et ils étaient unis à condamner le Seigneur Jésus, le Fils de Dieu, à mort. Mais le verset 28 nous rassure, ils n'ont pas pu faire plus ou moins de ce que le conseil éternel de Dieu avait arrêté d'avance. Donc, le décret de Dieu englobe même les actes pécheurs. En fait, le décret éternel de Dieu englobe absolument tous les actes commis librement par les hommes. Là encore, dans Proverbes chapitre 16 et le verset 1, c'est écrit, les projets que forme le cœur dépendent de l'homme. Donc, beaucoup disent, ah voilà, le libre arbitre de l'homme. C'est vrai, l'homme prend sa décision, l'homme choisit selon ce qu'il veut, mais c'est écrit, la réponse que donne la bouche vient de l'Éternel, quels que soient les projets que forme le cœur, qui dépend de l'homme, la réponse que donne la bouche vient de l'Éternel. Donc, le décret de Dieu englobe absolument tous les actes commis librement par les hommes. L'homme est libre de faire son choix selon le dessein éternel de Dieu. L'homme ne peut pas décider quoi que ce soit, si ce n'est selon le dessein éternel de Dieu. Cela nous montre aussi que le décret de Dieu englobe absolument tout ce qui résulte de ce que les hommes appellent la chance ou du hasard. En fait, il n'y en a pas. Je sais que les gens aiment jouer ces jeux d'hasard, mais dans Proverbes chapitre 16 et le verset 33, c'est écrit, on jette le sort dans le pan de la robe. Donc voilà le jeu d'hasard, mais toute décision vient de l'Éternel. Si cela est vrai en ce qui concerne les actes des hommes dans le monde et les affaires et la destinée des nations et la destruction finale des méchants, si Dieu n'était pas souverain, donc on ne pouvait pas imaginer qu'il aurait le pouvoir d'envoyer qui que ce soit à l'enfer. Mais c'est parce qu'il a déjà arrêté même la destruction finale des méchants. Il n'est pas obligé à sauver qui que ce soit. Dans Jude, chapitre 1 et le verset 4, nous lisons ceci en ce qui concerne les hommes incrédules, car il s'est glissé parmi vous certains hommes dont la condamnation est écrite depuis longtemps, des impies qui changent la grâce de notre Dieu en dissolution et qui renient notre seul Maître et Seigneur Jésus-Christ. Le point là à considérer, c'est dont la condamnation est écrite déjà depuis longtemps, c'est-à-dire depuis l'éternité. Ces décrets de Dieu sont mystérieux, c'est vrai, et impénétrables, mais ces décrets sont aussi irrévocables et immuables, c'est-à-dire l'homme ne peut pas changer ce que Dieu a décrété. Et pour cela, je trouve une assurance personnelle, puisque tout cela est vrai, en ce qui concerne Dieu, dans tout ce qui se passe dans le monde, c'est pour cela que nous pouvons annoncer un salut qui est aussi certain, parce que le salut n'est pas selon la volonté de l'homme, mais selon la volonté de Dieu. Exactement comme il a envoyé son Fils, le Seigneur Jésus-Christ, dans le monde pour accomplir sa justice et donner sa vie pour payer la dette d'un grand nombre de pécheurs qu'il a choisi depuis l'éternité. C'est ça qui rend le salut de cela sûr. Dans Actes chapitre 13 et le verset 48, à travers la prédication de l'apôtre Paul, c'est écrit, les païens se réjouissaient en entendant cela, en entendant le message de l'Évangile qui glorifiait le Seigneur Jésus-Christ dans le salut. Ils glorifiaient la parole du Seigneur et notaient tous ceux qui étaient destinés à la vie éternelle crurent. Ça ne dit pas que ceux qui ont cru, alors ils étaient ensuite destinés à la vie éternelle. Non, tous ceux qui étaient destinés à la vie éternelle crurent. Alors voilà le Dieu de la Bible. Voilà le Dieu qui a ordonné toutes choses pour sa gloire. Et voilà son décret éternel qui consiste en une décision émanant d'une volonté supérieure et imposée par celle-ci. C'est-à-dire Dieu en tant que souverain chef et magistrat. Tout ce qui se passe selon sa volonté, et se passe pour sa propre gloire. Et Dieu est entièrement libre en tout ce qu'il fait, pour la gloire de son nom, mais aussi pour la gloire de son Fils, le Seigneur Jésus-Christ.
Vous venez d'écouter un message qui vous a été présenté par Ken Wymer, prédicateur de l'Évangile de la grâce de Dieu aux États-Unis. Pour plus d'informations sur le message ou d'autres renseignements, veuillez visiter notre site sur l'internet www.shrevegrace.org. R-G.